France Inter, franceinter.com.
Salut Daniel et toute l'équipe. Aujourd'hui, on est lundi 21. Ça commence, le procès Clearstream cet après-midi. Je sais que la radio a horreur du vide. Il faut toujours parler pour meubler le blanc, je sais pas, ça a l'air de déranger. Toujours est-il que, bon, je vais pas vous infliger une minute de silence, mais si chacun pouvait, enfin si ça l'intéresse, hein, réfléchir un peu pendant quelques secondes à ce que c'est que cet énorme merdier, à ce que représente l'affaire Clearstream dans tout son ensemble et toute sa totalité, eh ben j'aimerais qu'on pense chacun un petit peu à notre ami Denis Robert, qui est dans une merde noire, et dont on n'a absolument pas cité le nom. Alors normal, il est cité à comparaître, voire plus que ça, le pauvre. Et puis bien évidemment, lui qui sait beaucoup de choses sur l'affaire, il n'a pas le droit de s'exprimer.
Bonjour Daniel, c'est Yann Français. Comme... Alors moi je suis un peu choquée ce matin, je pense qu'il y a plein de collègues qui le sont. On a reçu un mail de notre patron, M. Lombard. Alors comme vous, je suis bouleversée par les drames qui nous touchent et je comprends le désarroi qu'il suscite en interne, mais aussi dans votre entourage. Mais comme vous, je suis triste de l'image malmenée de notre groupe, qui ne fait pas justice à notre réussite, à son immense effort et à l'esprit qui nous anime dans ce que nous avons entrepris ensemble. Alors je trouve que c'est honteux qu'ils nous envoient ça, parce que l'image, on n'en a rien à foutre. Parce que nous, on en a marre de souffrir, on en a marre des réorganisations. J'ai entendu des copains ce matin d'Avignon, on ne peut plus, ça suffit. Et ce genre de mail, c'est inacceptable. Allez, à bientôt et on va tous se serrer les coudes, les agents de France Télécom. Au revoir.
Bonjour, nous habitons en Bretagne. Nous venons d'apprendre le jour de la rentrée que mon homme allait être muté dans le 9-3. Bien entendu, nous avons refusé. Nous devions y être pour le 21 septembre, donner la réponse le 10 septembre. Et puis, on vient de recevoir la lettre du patron qui nous dit « Vous tentez de justifier cette position en faisant état de difficultés familiales et financières que vous n'avez pas jugé utile de nous expliquer. » Eh bien non. Non, on ne peut pas expliquer, cher monsieur le président, qu'on puisse partir comme ça, une famille, dans un HLM, sans se soucier si la femme travaille ou pas. Non, ça, on ne peut pas l'expliquer. Remarquez, en retour, on nous propose une mutation dans le 9-1. Alors, pardon pour ceux qui vivent en banlieue parisienne, mais voilà, je voulais vous dire combien je suis profondément dégoûtée par la société dans laquelle on vit. Bon, nous, les employés, on n'est plus que des viandes à bras, des pions. Merci, Sarko, merci, la mondialisation, et bonne chance à tout le monde.
À propos de France Télécom, eh bien, ça a été annoncé ce que va faire le gouvernement. Une meilleure prise en compte de la vie privée des salariés. Donc, au niveau des conditions de travail, ça veut dire que le gouvernement, eh bien, considère que circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, les managers de France Télécom peuvent continuer. Les suicides, évidemment, ça ne vient que de la vie privée des gens. Voilà, des gens qui sont privés de vie au boulot, quoi. Allez, salut.
Salut Daniel, salut la base qui suit. Bah, juste un petit coucou pour vous dire que votre émission là, vendredi là, elle m'a vraiment bouleversé, quoi. J'étais limite en train de chialer dans mon camion là, tout seul dans ma cabine. Là. Donc, je crois que tu l'avais déjà diffusé, mais j'avais pas fait attention à ce point-là. Et sinon, je viens d'entendre ce matin là, aux infos de 5h là sur France Inter qu'ils viennent d'arrêter le corbeau. Croix. Enfin, on verra bien. Allez, bonne journée à vous, ciao.
Oui, c'est Arnaud d'Auvergne. C'était pour dire que cette émission, elle est vraiment belle. Et elle me rappelle, moi, quand j'ai que 36 ans, mais j'avais 13-14 ans, et mon oncle m'a fait lire la lettre de mon grand-oncle, Jean Poiret, qui est au Mont-Valérien, et de l'émotion qu'il y a eu quand il me l'a lu, quand on l'a lu, notamment quand il appelait ma grand-mère Nénette, et puis qu'il disait qu'il allait mourir. Donc voilà, ça a fait ressurgir pas mal de choses. Elle est vraiment belle, cette émission, et puis je voulais dire aussi la fierté qu'on avait dans la famille d'avoir eu un grand-oncle et un grand-père pour moi, quoi, en tout cas résistant. J'essaierai de passer ça à mes filles. Et puis... voilà. Au revoir.
Je vous remercie à vous et toute votre équipe pour ces merveilleuses émissions. Celle d'aujourd'hui était extraordinaire. On devrait faire écouter ça aux enfants dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et vous voyez, c'est là qu'on peut dire France Inter, la différence. C'est avec des émissions comme ça exceptionnelles. Bravo, merci, merci. Et encore, bravo.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Je viens d'entendre l'émission Hommage sur la résistance. Quels sont les résistants aujourd'hui? Où sont-ils? Eh bien, j'aimerais m'adresser à toi, mon camarade, ma camarade, qui est dans ton usine, toute seule, tout seul, comme délégué syndical, qui doit te battre pour la dignité de tes collègues, bien souvent d'ailleurs, en étant toi-même victime de la veulerie et de la vindicte de beaucoup d'entre eux, car quand on prend une délégation, c'est bien sûr pour aller à la pêche. Je pense à toi, mon camarade, ma camarade, qui très tôt le matin, alors que tu n'aimes pas fonctionnaire, mais que tu es attaché au service public, tu te lèves, tu vas devant un centre de tri postal avec tes tracts qui demandent le retrait du projet de loi qui mènerait immanquablement à la privatisation de la poste et qui t'entend dire par un postier « moi je m'en fous, demain je pars à la retraite ». Je pense à vous tous qui sont à peu près dans la même situation. Il y a eu peu de résistants, il y en a encore peu, il ne s'agit pas de faire la leçon à qui que ce soit, mais de savoir où nous en sommes aujourd'hui et de ne pas désespérer, mais de tenir bon et savoir que nous ne sommes pas tout seuls. On se bat et on se battra toujours, ne serait-ce que en mémoire de nos glorieux aînés. Allez, salut et bon courage.
Bonjour Daniel, merci pour l'émission d'aujourd'hui sur les résistants à Lyon. En ces temps difficiles et en Sarkozy, ça redonne du sens et du goût à la vie. Et surtout le désir de se révolter et de lutter contre les injustices. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. C'était Patrick de Châteaubriant, à deux pas du camp de Choisel, où malheureusement Odette, Nilez et Guy Moquet ne s'embrassèrent pas de part et d'autre des barbelés. Ciao.
Bonsoir, je viens d'écouter l'émission magnifique sur Guy Moquet et les autres là. Merci d'avoir parlé de Robert Desnos autrement que en recitant les hiboux et des trucs comme ça. C'était splendide.
Bonjour Daniel, c'est Sylvain, l'ex d'Airbus. Eh bien, j'ai été une fois dans ma vie touché de façon patriotique. J'ai été très ému par cette personne qui témoignait de sa position et surtout de sa non-considération de héros en tant que résistante. Mais si on regarde un peu plus loin que le bout de notre nez, la résistance, elle existe toujours actuellement. Et elle est combattue comme les fachos la combattaient, c'est-à-dire qu'on nie l'évidence que nous avons des gens qui sont en train de se battre pour leur vie et pour survivre. Je parle des travailleurs en général. Et plus ça va, plus ça s'aggrave. Et il y en a un qui vient de percuter hier que c'était un jeu. Mais il y a longtemps qu'on sait que c'est un jeu. Il n'y a qu'eux qui croient nous faire croire qu'on ne sait pas que c'est un jeu. Alors on est naïf, on utilise des mots comme eux que l'on ne maîtrise pas, on croit que c'est pour garder notre emploi. Non, non, c'est pour survivre. L'emploi n'est qu'une chose, Coluche l'a dit. Les chômeurs, mais ils auraient du travail, ils travailleraient. Voilà. Donc je crois qu'on est dans une nouvelle ère de la résistance et j'espère qu'on va couper des têtes de chefs qui nous tuent et qui nous coulent et qui nous asservissent et qui déporte le travail partout. Et courage à tous, salut.
La résistance se conjugue au présent, c'est la phrase qui a été la plus prononcée dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, suite à l'émission de vendredi. Bien sûr que tout cet hommage à ceux de l'affiche rouge et à ceux qui ont donné leur vie pour qu'on puisse parler comme on le fait en ce moment, est quelque chose de très important, à la condition, toute proportion gardée, sachant que comparaison n'est pas raison, que les circonstances, évidemment, sont infiniment différentes, hier et aujourd'hui, entre cette époque et la nôtre, mais l'esprit de résistance persiste, et la situation, la vie du résistant et des résistants est la même, c'est-à-dire avant tout être minoritaire, être seul contre tous, à contre-courant, avec toutes les difficultés que cela représente, les pressions que l'on subit, l'isolement et la pression au plan affectif, par exemple, qui est celle de celui qui va à contre-courant. On est dans un principe de majorité aujourd'hui. C'est la majorité qui a raison, qui donne la légitimité politique, par exemple. C'est la quantité d'achat qui va légitimer un produit. C'est la quantité, par exemple, bah, tout simplement, d'auditeurs ou téléspectateurs qui va donner la légitimité et qui va donner raison à une émission, à un programme, etc. C'est la quantité. Or, eh bien, c'est souvent, bien souvent, le minoritaire, celui qui va de ceux de la fiche rouge à Galilée ou dans l'autre sens, qui apporte la lumière, qui apporte le progrès, qui apporte le courage, courage à tous, comme dit fortement cet auditeur. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de l'affaire, enfin du procès Clearstream, on va retrouver Denis Robert. Denis Robert, il est impliqué dans cette affaire, même si c'est de façon marginale. Et tout à l'heure, à l'entrée du palais de justice à Paris, il a dit « La seule chose qui m'ennuie, c'est de passer un mois dans un tribunal. Et moi, je suis poursuivi pour journalisme. » Je suis poursuivi pour journalisme. Il arrive que des journalistes soient poursuivis pour journalisme. Et c'est son cas. Et ça mérite qu'on revienne avec lui sur l'affaire Clearstream, mais non pas sur l'affaire Clearstream elle-même, mais sur ce qu'est Clearstream. Voilà, on va revenir là-dessus. Je voudrais dire aussi concernant France Télécom que nous préparons un sujet sur France Télécom, et les témoignages des salariés de France Télécom nous intéressent tout particulièrement. Donc voilà, vous connaissez le numéro du répondeur de la base si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis. Je répète encore, 01 56 40 37 37.
Oui, je m'adresse là aux AMG d'Alès et ses environs dans le Gard, pour une reprise du Café Repère ce mercredi 23 septembre à 19h au Vintage Bag Café, route du Pont de Gravieux, face à Monsieur Meuble, à Alès, dans le Gard. Farid nous y accueillera pour une nouvelle saison. Nous entendons nombreuses et nombreux. À mercredi.
Oui, bonjour, je m'appelle Marie, je suis infirmière de bloc opératoire. Le président Nicolas Sarkozy est venu pour la 2500e greffe à l'hôpital Paul Brousse. Et les médias, on a entendu seulement qu'on avait dépensé beaucoup d'argent pour sa venue. Et on n'a rien entendu sur le don d'organes, le premier centre de greffe hépatique en France, sur les vies qui ont été sauvées grâce à ce don d'organes. Et ça me révolte de voir que les médias n'ont rien remis, rien dit d'autre qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Et nous, infirmières, nous nous battons tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et juste pour voir ça, on était quand même content de voir le président de la République, quel que soit son groupe politique, pour voir qu'il est attentionné aux dons d'organes.
Bonjour, nous vous rappelons que le jeudi 24 à 20h à Alban, dans le Tarn, se déroulera le premier Café Repère au bar tabac chez Marco. Pour cette première, le sujet sera « Pourquoi ici j'y suis ?» Vivre dans les mondes albans, les attraits, les réalités, les perspectives. Vous avez des idées, des constats, des solutions. Venez en débattre, nous éclairer. Soyons modestes et géniaux pour ce premier Café Repère à Alban, ce jeudi 24 à 20h chez Marco. Merci à vous.
Alors, ouverture de l'affaire du grand... La grande affaire Clearstream aujourd'hui, en ce moment même, au Palais de Justice à Paris. Et les meilleurs observateurs sont présents, les spécialistes, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Ils sont très très nombreux sur cette affaire très compliquée. Et alors là-bas, si j'y suis, bon, c'est une petite équipe valeureuse, etc. On s'est dit... Comment rencontrer des spécialistes, des gens qui s'y connaissent et qui pourraient nous éclairer. C'est ainsi que, pas plus tard que ce vendredi, Antoine Chao a promené le micro de la base, on n'en a pas des quantités, de la base si j'y suis, dans les couloirs du palais de justice de Paris, bien avant tout le monde.
Alors là, on est devant le, on est au palais de justice, hein, c'est ça ?
Devant la 23e chambre.
Vous êtes habitué, vous connaissez bien le fonctionnement du tribunal, enfin,
oui,
du palais de justice.
Oui, mais pas beaucoup de correctionnel, beaucoup plus en assises.
Est-ce que vous pouvez nous conseiller quelques bonnes affaires à venir voir
Villepin, 21, la première chambre. Correctionnel, ça. Hein.
Mais ça vaut le coup, ça va être du grand spectacle ou pas?
Ah bah oui, il y a tout. Je crois qu'il y a 40 prévenus, les avocats, les journalistes.
Et vous pensez que vous allez avoir
moi,
la place?
Je pourrais pas rentrer, non. 40 prévenus le premier jour. Ils vont tous être là, plus les 40 avocats ou 50 avocats, hein, puisqu'ils en ont plusieurs chacun.
La salle est pleine.
Oui.
Et vous, depuis quand ça vous passionne comme ça la justice ?
10 ans, 12 ans. Ça m'a toujours passionné, mais je n'osais pas rentrer dans le palais de justice.
Alors le premier jour, ça a été comment ?
Je suis venu avec une amie. Et depuis, je ne peux plus m'en passer.
C'est mieux que la télévision,
oui.
Du spectacle, c'est mieux que le théâtre.
Bah, c'est du réel déjà. Ça n'a rien à voir. Et puis on apprend plein de choses qu'on ne soupçonne pas.
Alors vous avez comme ça un souvenir d'une grande affaire que vous avez suivie comme ça qui vous
plein, a... plein. L'affaire Elf, l'affaire... Mais c'est en correctionnel, ça, l'affaire Elf. De Viejeancourt, Dumas, c'était exceptionnel, ça. Là, c'était une pièce de théâtre. Je suis allé à la fin de Tibéri. Des avocats fabuleux. Ténor du barreau, là.
Mais vous auriez aimé...
Oui.
Faire quoi?
Avocat.
Et alors?
Ou magistrat, hein. Bah, ma vie était autre... Non, mais j'ai élevé mes enfants.
Et aucun de vos enfants n'est devenu avocat ou magistrat?
Aucun. Ils n'ont pas mon virus.
Et vous n'aviez jamais eu affaire à la justice, j'imagine. Oui. Vous ne saviez pas comment ça marchait, quoi.
Justement, jamais.
Et vous trouvez que ça marche bien?
Non. D'une part, c'est trop long. Les jugements sont trop longs. Les peines ne sont pas exécutées. Avec les remises de peine, quand on pense que là, il y en a un qui a tué... On lui a donné 12 ans, il a fait 6, il est dehors. C'est pas assez puni. On devrait les faire travailler d'abord, tous ces prisonniers-là.
Vous pensez que c'est laxiste, la justice est laxiste?
Les prisons sont pleines, donc on doit leur donner des ordres comme pour pas.
Vous commencez à avoir une certaine compétence quand même, on vous demande pas votre
avis. À force, à force. Oui, mais
si
en général, on ne répond pas.
Hein. Vous me demandez hier.
Alors, mais c'est les procureurs qui sont indulgents ou c'est les juges?
Les juges.
Ah.
Les juges.
Alors, ils sont sous influence, vous pensez?
83 000, je crois, peines n'ont pas été exécutées. C'est vrai, hein?
Ah non. Mais non, mais moi je suis pas fouillé.
Alors, vous êtes des pros du tribunal,
non,
c'est ça?
Non, mais c'est...
Alors, vous venez régulièrement, vous assistez aux audiences, c'est ça?
Ah oui, enfin...
Alors, un souvenir intéressant, là... qui vous a comme
Oui, la dernière fois, quand il y a eu même Parizeau, pour l'UNM, là, pour le procès.
Ah oui, voilà. Donc là, vous avez assisté à celui-ci, oui.
Oui, mais enfin, pas dans sa totalité, parce que je ne peux pas me permettre de rester tout après-midi.
Mais vous aimez bien voir quand les grands de ce monde se retrouvent derrière le barreau des accusés, quoi.
Oui, bien sûr, comment ils agissent. Hein. Et je viens aussi, parce qu'il y a des habitués qui sont là, et c'est pour discuter avec les habitués.
Mais comment c'est venu chez vous, cette passion comme ça des palais de justice?
Je m'étais toujours dit, quand je travaillais, quand on entendait parler des grands procès, je m'étais toujours dit, le jour où j'aurai le temps, j'irai y assister. Et puis c'est vrai que, parce que là, je suis entre deux travails, donc...
Vous faites quoi?
Cuisinier.
Et vous auriez aimé être avocat ou juge?
Non, je n'en ai pas eu possibilité.
Et vous avez une idée de combien de personnes, un peu comme vous, sont passionnées et viennent ici, au tribunal de Paris, pour poursuivre les affaires?
Du public qu'on voit régulièrement, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 personnes.
La prochaine affaire que vous ne voulez pas rater, vous savez déjà?
J'aurais bien voulu voir M. Villepin, mais je pense que les places vont être chères. Je ne vais pas faire 2 heures de queue pour entrer... Enfin, on verra les arrivées.
Ah, vous serez là quand même? Vous viendrez quand même pour essayer de rentrer?
Oui, on sera là, parce qu'ils vont arriver à la salle des pas perdus, donc moi, je serai aux alentours.
Mais vous habitez loin ou pas?
En banlieue. Enfin, je viens pas tous les jours non plus, mais enfin, bon... Non, mais je viens aussi, je dis, pour dire bonjour aux collègues.
Et après, il y a un bar, vous vous retrouvez le soir?
Non, le bar, c'est
la machine qui fait bip.
C'est la machine à café.
Alors voilà, on les appelle les tricoteuses, au palais de justice de Paris. Ils sont effectivement une vingtaine. Ils sont bien connus des avocats et des magistrats. C'est ces gens qui... et parce que les lois veulent que les tribunaux soient ouverts. Et donc, qui viennent assister aux affaires, aux audiences, et qui s'y intéressent de façon passionnée. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi s'appellent-ils les tricoteuses? Je dis « ils tricoteuses ». Bon, vous savez bien, les tricoteuses, c'était ces femmes qui s'assemblaient devant la guillotine ou qui suivaient la charrette des condamnés à mort tout en tricotant, en attendant les exécutions au temps de la Révolution française. Eh bien, Dominique Godineau, universitaire de Rennes 2, a vu là la formation, la construction d'un mythe contre-révolutionnaire, c'est-à-dire l'image de la Révolution dévore toujours ses enfants, et voilà comment de braves femmes du peuple, douces à Corte, devenaient féroces à cause de la Révolution, puisqu'elles étaient là à attendre que le sang coule. Eh bien, en fait, selon ce chercheur, c'est très passionnant, les tricoteuses étaient des femmes qui assistaient aux séances de la Convention, car pour être valide, les séances de la Convention devaient être publiques. Aucune décision ne pouvait être prise en secret. Pour être sûr qu'il y ait du public, la Convention payait ces femmes 50 sols par jour pour être présentes. Et évidemment, elles attendaient. Alors, pour ne pas perdre de temps, elles tricotaient pour tuer le temps. Et avec la terreur et le tribunal révolutionnaire, leur rôle s'est développé. C'est intéressant de revenir là-dessus. Voilà. Et aussi de penser à toute l'ambiguïté de ce public qu'on trouve un peu dans tous les palais de justice, mais évidemment, ils sont bien connus à Paris, qui vient à la fois se délecter de ce théâtre en vrai, comme dit cette dame, que constituent les audiences des tribunaux. Voilà. On va retrouver Denis Robert et l'affaire Claire Stream, pas seulement l'affaire Claire Stream, mais Claire Stream toujours avec celui qui est entré tout à l'heure parmi les autres, parmi beaucoup d'autres, dans le palais de justice de Paris et qui dit « Moi, je suis poursuivi pour journalisme ».
Quand une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont plus...
Ça, je comprends.
Mais ils vont fermer une usine, même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais ?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Moi, j'ai écrit un slam, ça s'appelle « Voleurs de foule ». La justice, elle fonctionne pour gauler les voleurs de poule, jamais les voleurs de foule. Et ici, on est dans des boîtes qui... C'est des voleurs de foule.
Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête. Ils sont convaincus que le système va monter au ciel. Que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils peuvent plus. Le jour où les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible.
Le combat des juges contre le crime financier, c'est un peu la course du mammouth contre le léopard. Quand le mammouth judiciaire trouve la cache d'un léopard prédateur financier, le léopard a déjà changé 3 fois de planque et le mammouth n'y arrivera jamais.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Denis Robert, voleur de poule, voleur de foule.
Flight number 2, arriving from New York.
Les avis d'huissier, ils sont... j'en ai une partie là, et l'autre partie, les plus récents, sont dans le tiroir. Tu vois ? Cour d'appel de Paris...
Cour supérieure de justice du Luxembourg, TGI de Paris. Ça, c'est le truc de la cour de casse qui est tombé. Ça, c'est une facture d'huissier. Ça, c'est tout du mois écoulé, on va dire, de 2 mois peut-être.
Un tiroir, c'est 2 mois de procédure.
Bah celui-là, ouais. Là, ces 2 derniers mois, c'est tombé assez régulièrement, quoi.
Et ça, c'est quoi, ça, alors ?
Ça, c'est un tableau de... Je m'assois parce que j'ai mal au... Ça, c'est un tableau de Philippe Pasquier, mon copain. Enfin, moi, j'étais obsédé par l'idée de comment rendre compte de cette censure. Et donc, l'idée, c'était de faire un bureau. L'idéal eût été de prendre ce bureau-là, qui est mon bureau, de mettre dessus le fruit de ces 5 années d'enquête, avec tous mes documents, avec un ordinateur, et derrière ce bureau, d'édifier un mur qui fasse 6 mètres de haut, au moins. Je tapissais le mur d'avis d'huissier, de lettres commandées, de tout ce que j'ai eu depuis 4-5 ans. Et j'ai de quoi en faire, sur 1,50 m, de le monter à 6 mètres, tellement il y en a. Pour montrer l'écrasement et la difficulté quand tu travailles sur ces sujets-là, comment on essaie de te faire taire et de te faire plier, la pression des procès. Par exemple, les Russes de l'Amenhotep, quand ils m'ont attaqué, comme ils m'ont attaqué dans 7 pays, et que j'ai 2 films et 2 livres, il y a 28 procédures. Donc 28 fois, tous les 3 mois, pendant 5 ans, j'ai eu des avis d'huissier de l'Amenhotep. À côté de ça, bon, il y a Clearstream, il y a tous les procès que me fait Clearstream en France, en Belgique, au Luxembourg. Il y a toutes les plaintes en diffamation qui ont été déposées contre moi. Et puis, il y a tous les procès que m'ont fait Fortis et la Banque Générale de Luxembourg. Et puis, il y a l'État luxembourgeois qui est le... Finalement, si tu prends tous les adversaires que j'ai aujourd'hui, avec Clearstream, c'est l'État luxembourgeois qui est le plus vindicatif à mon égard, et le plus violent et le plus agressif.
Et le mur, ce mur de 6 mètres de haut, ce mur qu'on ne peut pas franchir, couvert d'avis d'huissier et de procédures et tout ça, c'est aussi le mur contre lequel tu te heurtes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est pour montrer aux gens, parce que ce n'est pas le tout de le dire. Quand tu vois les lettres, quand tu vois la quantité de choses et tout, tu te rends compte de ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui dans ce pays, quoi.
Qu'est-ce que vous ne devez pas comprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous allons vous dire pour vous distraire, pour vous détourner de l'essentiel, pour vous éloigner des manettes de votre propre destinée ? Qu'est-ce que nous avons encore trouvé pour appliquer notre politique ? La politique au sens où l'entendait Paul Valéry. La politique, disait-il, est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Eh ouais, c'est ça, notre boulot. Bien sûr, vous ne trouverez personne pour vous dire ce que je vous dis là. Aucun journaliste, en tout cas. Et pourquoi ? Bah parce que les journalistes sont de braves gens. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils s'appliquent, faut pas leur en vouloir. Et puis la plupart du temps, ils n'en savent rien. Ils vous parlent de choses qu'ils ont lues. Ne croyez pas qu'il y a un complot, une grande usine quelque part, sous la terre, où l'on fabriquerait de la désinformation. L'usine a désinformé, peuplée par les bourreurs de mou. Bien sûr que non, pas besoin. Ça, c'était bon au temps de Staline ou au temps de notre ministère de l'information, par exemple. Non, non. Aujourd'hui... plus la peine, tout ça est parfaitement intériorisé, le dressage est réussi et on pense ce qu'il faut penser, on dit ce qu'il faut dire, on fait ce qu'il faut faire comme tout le monde, on pense, on dit, on fait comme tout le monde. Et mais penser quoi d'autre, hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre ? Bah voilà un gars qui pense autrement. Denis Robert est une exception dans cette profession. Il y en a d'autres quand même, il faudrait qu'on en parle d'ailleurs un jour, des exceptions dans cette profession. Il a fait un pas de côté, il y a déjà pas mal de temps. Et lui tout seul, ou presque, il a essayé de s'attaquer à l'essentiel. Il a essayé d'aller au cœur même du système actuel, c'est-à-dire un mot pour ce qui le concerne, Clearstream. Qu'est-ce que c'est que Clearstream ? Ben, on va essayer de comprendre au cours de cette heure, d'ici à 16 heures, de parvenir à faire la différence entre les voleurs de poules et des voleurs de foules.
Clearstream, c'est un peu la banque des banques. Elle permet aux professionnels du secteur financier non seulement de s'échanger des valeurs, mais aussi de garantir des prêts et des emprunts. En principe, ces professionnels, ces clients, ce sont des banquiers. Clearstream a été créé par eux et pour eux dans les années 70. À son conseil d'administration siégeaient en 2001 les plus grandes banques de la planète. Clearstream est un outil indispensable, une caisse enregistreuse et une pompe à finances. Ceux qui l'utilisent et qui la dirigent, ce sont les banquiers. Ces mêmes banquiers, on les retrouve actionnaires ou créanciers des multinationales.
Les listings de Clearstream, donc ils sont sur ton ordinateur ?
Alors, dans mon désordre organisé, est-ce que je vais les retrouver ? Oui. Classeur Excel qui va s'ouvrir, ça prend un peu de temps parce qu'ils sont lourds. Et là, tu vas trouver plein de trucs dans les paradis fiscaux. Tu vois, là, il y a un compte à Nassau, aux Bahamas. C'est quoi ce truc ? Pictet International Limited.
De les îles Caïmans, là. Georgetown.
Ouais.
Nassau. Les Bermudes en dessous. Hamilton aux Bermudes.
Ouais.
Tu fais du tourisme, toi, avec les listings.
Voilà,
tu vas vachement, visites vachement d'îles ensoleillées. De ta Lorraine, du Luxembourg, tu visites toutes les îles ensoleillées du Pacifique.
Tiens, Georgetown, ouais.
Les îles Caïmans.
Et regarde les noms. Tu vois, Flendeling Nominees. Nominees, c'est nom, mais ça veut dire nominis, ça veut dire que c'est un prête-nom, ça. Enfin, il y en a 33 000 comme ça, hein, donc. Des fois, les soirs, quand je me fais chier, je regardais ça, je trouvais. Il y avait presque une poésie. Regardez tout ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. C'est quoi cette société à Nassau ? C'est pas en allant à Nassau que tu auras les renseignements. C'est chez Clearstream que tu les as. C'est dans leurs ordinateurs. Mais eux sont protégés par l'État luxembourgeois, qui vient me faire chier moi, quoi. Je peux fermer.
Il y a le chien de garde, c'est ça ?
Hein ?
Il y a le chien de garde, pour les huissiers des boules.
Mais le chien, elle s'appelle Lily. Elle est très. Elle n'aime pas les huissiers. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai une fille de 13 ans. Elle était à la maison et le type lui a dit « Ouvre la porte, sinon ton père peut aller en prison. » Ils utilisent des méthodes comme ça, des fois. Parce qu'il fallait qu'ils remettent un acte et ça les fait chier de revenir. Et... J'y vais, hein. Dès que je rentre, je t'appelle.
Alors, pression, intimidation, un minuscule moustique se... Un minuscule David face à cet énorme Goliath, Denis Robert. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il se penche sur Clearstream, qu'il prononce ce mot aussitôt, une avalanche de pression, de manœuvres d'intimidation, de poursuites et de procès ? Mais il se pourrait bien que, au-delà d'enquêtes, d'analyses, de dénonciation, de dévoilement. Après tout, il n'est pas le seul. Au cours de ces années dernières, il y a quand même pas mal de choses qui ont été découvertes. Et puis, bon, l'autruche capitaliste, vous le savez, est capable de tout bouffer. Mais là, dans ce cas-là, il y a quelque chose visiblement qui passe de travers. Et ce qui passe de travers pourrait bien être que Denis Robert ait découvert, mis à jour, que la mondialisation financière est régulable. On présente les choses depuis longtemps comme quelque chose d'absolument incontrôlable, on ne peut plus rien faire, c'est plus fort que nous, il faut s'adapter, il faut se soumettre à cet ordre. Et il se pourrait bien que ce soit cela qu'il ait mis à jour et qui gêne tant cette hyperpuissance occulte ou qui cherche à ne pas faire parler d'elle, à ne pas se montrer au grand jour. Le point de vue de Dominique Plion, qui est économiste et président du Conseil scientifique d'attaque.
Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie, vous êtes économiste. Vous êtes par ailleurs président du Conseil scientifique d'attaque. Est-ce que pour un économiste, il y a eu, à travers les livres de Denis Robert, est-ce qu'il y a eu des points du fonctionnement de l'économie contemporaine qui ont été plus clairement mis en lumière ?
Oui, ben, ce qu'a fait Denis Robert en particulier, c'est de montrer avec force et avec détail que Clearstream, c'est-à-dire une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, qui est une société privée, avait un rôle extrêmement important et stratégique pour le fonctionnement des paradis fiscaux. Clearstream, c'est un écran, c'est un moyen de mettre de l'opacité pour pouvoir faire en toute tranquillité n'importe quelle opération, donc pouvoir détourner de l'argent, pouvoir faire de la fraude fiscale, pouvoir faire du blanchiment d'argent. Et évidemment, les gouvernements luxembourgeois, britanniques et les opérateurs privés sont opposés et donc sont furieux d'enquêtes comme celle de Denis Roubert, parce que ça montre au grand jour où est le problème.
L'une des surprises avec Clearstream, au-delà des dysfonctionnements, au-delà des scandales, c'est de découvrir que finalement cette finance internationale qui était représentée comme d'abord immatérielle, ne laissant pas de traces, n'ayant pas de mémoire, étant décentralisée, en fait pouvait s'avérer extrêmement centralisée, avec des traces, avec une mémoire, et donc contrôlable.
Exactement. C'est le système financier bancaire international est extrêmement centralisé. Aujourd'hui, une chambre de compensation est un endroit névralgique, une espèce d'aiguillage, en quelque sorte, vers lequel transite une grande partie des flux financiers. Vous avez, je le disais, pour les marchés d'échange, qui est le plus grand des marchés, hein, c'est les marchés où les monnaies s'échangent les unes contre les autres. Il y a à peu près 10 banques, qui sont toutes anglo-saxonnes d'ailleurs, qui contrôlent 90% du marché. Et donc, il y a non pas une décentralisation, mais en fait une concentration des opérations financières entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a la volonté politique, on sait très bien où aller pour détecter les flux, pour les repérer et pour les réglementer, voire pour les interdire.
Non, non, on est sur l'autoroute, là, il y a plein de monde. T'as pas le siège auto, mais... Ouais, mais bon. J'ai oublié de le laisser à la maison. Là, j'ai un micro sous le nez, donc tout ce que je dis, c'est enregistré, je te signale. Ouais, bisous, à tout à l'heure.
Donc les héros ont aussi des problèmes de siège bébé.
C'est ça.
Donc là, on roule en Jaguar. entre Metz et le Luxembourg.
Non mais la Jaguar, c'est un plan avec un copain, c'est une Jaguar d'occasion, mais que mon voisin Jean-Marie a retapé.
Là, c'est une route que tu prends souvent pour aller au tribunal de Luxembourg.
Quand je vais au tribunal, ça doit être la 5e ou 6e fois que je vais aller à Luxembourg. J'étais entendu par une juge d'instruction déjà 2 fois, j'étais convoqué 1 fois, donc... Mais c'est une route que j'ai prise souvent quand je faisais mon livre ou quand je faisais mon enquête, quoi. Mais là, on va à la cour d'appel, donc je ne vais jamais aller à la cour d'appel. On va innover. Et au Luxembourg, pour moi, c'est le pays du guet-apens. Parce que quand tu vois les procédures qu'ils ont montées contre moi, c'est à se taper la tête par terre, quoi. Et ça, c'est une procédure. Au Luxembourg, j'en ai 5 ou 6 autres.
Et moi, quand j'ai un procès, et ça m'arrive encore... Quand j'ai un procès, ma mère, elle me fait me raser, elle me fait mettre une chemise blanche. Toi, là, t'es pas rasé, t'as une veste de jean noire. Ça va pas, ça?
Non, mais je vais pas.
Ma mère, elle serait pas contente. Hein.
Ma mère non plus, d'ailleurs. J'irai jamais me déguiser pour me faire bien voir devant un tribunal.
Il y a une fatwa sur le peigne aussi ou pas?
Pourquoi, là, ça?
Peut-être.
Je perds mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Enfin, non, je les perds plus, là, mais j'ai jamais eu. Ne serait-ce qu'une seconde, l'idée que j'allais les abattre ou que Clearstream allait fermer ses portes. Quoi. Ils ont fait 18,7 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, en augmentation de 14%. Ils ont des filiales dans plus de 100 pays, dans 130 pays du monde. Ils viennent d'ouvrir des bureaux au Japon, en Arabie Saoudite. Ils sont richissimes. Ils viennent de prendre tout l'argent des Russes. Tout le fric des Russes sont rentrés dans Clearstream. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ils ont une communication, c'est comme un rouleau compresseur. Et ça, ça coûte des ronds, quoi. L'avocate, c'est 5000 euros.
T'as calculé combien ça te revenait depuis le début de toute cette histoire?
On doit être à, je sais pas, je vais dire 200 000 euros. Mais moi, personnellement, j'en ai pas dépensé. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est ça la vraie censure. C'est une censure économique. Moi, j'hésite. L'autre jour, quelqu'un m'appelle, faire une interview là-dessus. Je dis, puis en moi, je me dis, putain, si je commence à dire, alors que si je dis que Clearstream, c'est un poumon de la finance parallèle, je peux le prouver. J'ai les listings avec les comptes ouverts dans les paradis fiscaux, etc. Mais ils vont attaquer en diffamation. S'ils attaquent en diffamation, et je gagne en première instance, je gagne en appel, ils se foutent en cassation. Donc, je suis à nouveau dans un circuit comme ça.
Donc là, on franchit la douane, là, on passe au Luxembourg ici.
Ouais, on passe au Luxembourg.
c'est un pays que j'aime pas. Hein. Ces gens-là savent très bien qu'ils fonctionnent, qu'ils ont fonctionné sur l'argent du crime, parce que toutes les mafias du monde et ont des comptes ouverts ici. Et c'est ça qui enrichit les gens, quoi. Tout le monde à Luxembourg a une femme, une sœur, un frère qui travaille dans une banque.
Vous êtes arrivé.
Le Clearstream, ça doit être en face là. Je me paume un peu, moi, c'était au numéro 42.
Le Clearstream, c'est là.
Mais il y avait avant, il y avait au centre-ville, ils avaient un des plus beaux immeubles de Luxembourg. Avec, en grosses lettres, Clearstream, on le voyait la nuit, quoi. Puis évidemment, après mes bouquins, les lettres ont rapetissé, puis à un moment donné, l'enseigne a disparu et l'immeuble a été vendu. Et ils ont repris des immeubles de verre.
C'est à peu près la Défense, mais qui serait en dehors de la ville, quoi. C'est-à-dire des bâtiments de verre, un alignement de bâtiments de verre.
Des petites œuvres d'art, un peu comme ça. On dirait du Nikit Saint-Phal, tu sais, ce genre de... Mais c'est quand même assez déshumanisé, comme quoi.
Ah, c'est la zone industrielle, sauf que c'est une zone bancaire, quoi.
Ouais. Attends, je peux tourner, là? Putain, non, j'ai jamais le droit de tourner. Pour ces financiers qui vivent dans une espèce de vase clos coupé du monde, et c'est là qu'est l'argent de toutes les sièges des... Derrière ces façades, c'est une espèce de coffre-fort planétaire. Mais comme l'argent est aujourd'hui électronique, tout est dans des disques durs d'ordinateur. Et puis tu croises des types comme ça, habillés en costard, enfin tu les vois qui...
Mais avec tout ce fric-là, ils n'ont pas réussi à se construire un beau monde, parce que ça pourrait être un beau monde à part, mais là, c'est pas...
Là, c'est tout.
Mais ça fait banlieue, quoi.
Là, ça fait banlieue. Là, il y a une galerie d'art. Tu vois, je veux dire, moi, je serais artiste, je chierais la honte d'aller exposer là-dedans, quoi. Mais les Luxembourgeois ont plutôt des goûts de chiottes en matière d'art, mais ils ont plein de pognon. Donc, ils investissent dans des trucs. Je crois bien que c'est ça, Clearstream, non? Je suis pas sûr.
Il y a un immeuble de 5-6 étages, là où on est à l'arrière, on aperçoit les gens dans une cafétéria. C'est la cafétéria du Deutsche Börse Group. C'est la cafétéria de Clearstream. T'es déjà allé manger à la cafète? C'est bon?
Non, je suis jamais allé manger à la cafète.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Je suis contacté par un jeune luxembourgeois qui s'appelle Marco Mart, qui était le fils d'un député, et qui va me présenter un type qui s'appelle Bacchus. Et au contact de Bacchus, je me rends compte que, contrairement à tout ce que j'avais cru et à tout ce qu'on m'avait fait croire et à tout ce que me racontaient les juges, il y avait une traçabilité de l'argent. Il y avait donc une mémoire de l'argent. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle. Et donc, je découvre ces espèces de boîtes qui s'appellent les chambres de compensation. J'entends parler de clearing, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et Van Rimbeek et Eva Joly, ou tous ces juges qui aujourd'hui peuvent parler de ça, ils ne savaient pas ce que c'était non plus, quoi. D'abord, c'était un travail de comprendre, et de comprendre qu'il y avait une mémoire de l'argent, qu'il y avait une centralisation de l'information, que l'argent était complètement dématérialisé, mais qu'à un moment donné, la dématérialisation ne voulait pas dire l'absence de traces.
Qu'est-ce qui se passe derrière ces parois de verre, là, où on voit des gens qui travaillent, des gens qui s'amusent à la cafétéria? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation?
C'est un organisme financier qui fait le lien entre toutes les banques et tous les organismes financiers de la planète. Je comprends que c'est un nœud essentiel de cette finance internationale, et surtout je comprends un truc, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Par exemple, quand il y a eu la crise en Argentine, c'est Clearstream qui a communiqué au nom des banques de la planète. S'il y avait eu des outils indépendants de contrôle de Clearstream, on aurait pu prévenir la crise argentine. C'est dingue, mais c'est vrai.
Si jamais on voulait contrôler la finance internationale, là, il y a un point sur lequel il faudrait faire peser toutes les instances de contrôle.
Voilà. Les paradis fiscaux sont des leurres. Ça ne sert à rien d'aller à Jersey, d'aller à Guernsey, d'aller à Andorre, d'aller à Monaco, même d'aller à Caïman pour retrouver des traces d'argent. Toi, juge ou toi, journaliste, tu vas aller à Caïman, tu vas trouver des cacahuètes, tu ne trouveras jamais rien. Par contre, où est-ce que s'inscrit la propriété de cet argent? Eh ben, c'est dans les sociétés qui vendent. Et cette société, c'est Clearstream.
c'est minable comme musique, c'est vrai. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour illustrer les paradis fiscaux. Cocotier, Lagon, un endroit où on s'emmerde profondément. Ce qui est frappant peut-être avec ces riches et ces enrichis qui souffrent de cette terrible pathologie du profit, c'est leur profond manque d'imagination, manque de culture, manque d'ambition. À part l'argent, gagner de l'argent, entasser de l'argent, mais c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien au bout et cette galerie d'art là, que nos deux oeufs trouvent à Luxembourg, je suis sûr que c'est des toiles pitoyables, mais ils s'en foutent parce que, enfin ceux qui achètent ces choses-là, parce que c'est uniquement pour spéculer et c'est encore pour faire du pognon. Tout ça, ce serait simplement amusant ou désolant tout au plus, sauf qu'évidemment, ça n'est pas sans lien avec la marche du monde, les inégalités et les souffrances de certains. Pour en savoir plus, Denis Robert a travaillé avec Ernest Bocuse, qui était l'ancien numéro 3 de Clearstream et qui nous parle.
Ernest Bocuse, là où on vient de sortir du tribunal, ça a duré à peine un petit quart d'heure. Vous, vous avez été numéro 3 de Clearstream, donc vous avez été un personnage important au Luxembourg, on peut dire.
Oui, oui.
Si jamais il y a tant de procès qui sont mis en place par la justice luxembourgeoise, par Clearstream, par des banques, y compris des banques russes, c'est parce qu'on, là, on a touché à un point névralgique de la finance.
Ça, certainement. C'est certainement le cas. Il faut dire que les tribunaux et la haute politique sont sous pression des milieux financiers, les plus hauts milieux financiers et politiques, je dirais, du monde entier, pour nous abattre, pour que finalement on n'arrive pas à discuter sur le fond de l'affaire. Mais je peux vous assurer que sur le fond de l'affaire...
C'est quoi le fond de l'affaire pour vous? C'est qu'il y ait des comptes non publiés chez Clearstream, que Clearstream puisse servir de plaque tournante de la finance occulte?
Oui, on peut blanchir de l'argent sur un compte publié aussi bien que sur un compte non publié.
Et vous, vous dites que Clearstream est l'une des plaques tournantes qui permet de blanchir cet argent?
Oui, oui, c'est ce que j'ai en somme toujours dit. Bien qu'ils ne soient pas les blanchisseurs, les blanchisseurs restent les membres des systèmes qui utilisent le système pour blanchir.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont la machine. Ils ont la machine à blanchir, mais ce n'est pas eux qui blanchissent.
C'est ça.
C'est comme un pressing et chacun vient laver soi-même son argent.
C'est exact. C'est exact. Mon idée n'était pas de désigner Clearstream et les autres chambres de compensation transfrontalière comme des blanchisseurs, mais pour des gérants de machines à laver.
Et donc vous vous dites, finalement, s'il y avait un endroit où on pouvait commencer à contrôler la finance internationale, ça serait par ces chambres de compensation, d'abord par Clearstream, par exemple.
Oui, oui, oui. Donc, ils insistent pour nous ridiculiser, Denis Robert et moi-même, pour nous pousser dans un rôle de farfelu et de je ne sais pas quoi encore.
Ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de comprendre comment tout cela fonctionne. C'est ce que fait Denis Robert depuis déjà longtemps, ça lui coûte ce que vous entendez. Il a réalisé plusieurs films, dont Les Dissimulateurs, que je vous conseille, et L'affaire Clearstream, racontée à des ouvriers de Diwu. Ça n'étonnera pas trop les auditeurs de la basse sismique qui connaissent cette histoire de Diwu que nous avons racontée. Donc, L'affaire Clearstream, racontée aux ouvriers de Diwu. C'est un film de Pascal Laurent, dans lequel on voit Régis Impel, que voici.
Oui, moi j'ai été vice-président dans la société, hein. J'étais responsable de l'informatique et de toute la production, quoi. J'avais quand même plus que la moitié des gens qui travaillaient à ce moment-là à CEDAL étaient sous mes ordres. Plus que la moitié.
Lui, physiquement, il manipulait les programmes informatiques et il effaçait des transactions, mais des transactions sur des montants. On comptait en dizaines, voire centaines de millions de dollars. On parle en dollars.
Dans le temps, ce que mon papa, peut-être que je me gourre, mais c'est dans le temps où moi j'étais là, c'était entre 50 et 60 milliards de dollars par jour que ça tournait.
50 à 60 milliards de dollars
par jour que ça tournait.
C'est-à-dire que c'est une transaction qui avait existé, mais dont il fallait effacer les traces.
Les traces, oui. avec deux instructions dans un programme, c'est bête, read, write, fini. Hein. Pour nous, c'était de la routine. Je dis toujours pour nous, en informatique, c'était de la routine. Hein.
Mais ça vous paraissait louche, alors ?
Je m'étonnais, quoi.
Et pourquoi on vous demande d'effacer ces transactions, alors ?
Ouais, pour pas retrouver de traces d'où ça vient.
Parce que ça peut venir de où ?
Là ! Ça peut provenir de partout. Quoi.
T'es un trafiquant de drogue, un trafiquant d'armes, t'es un fraudeur du fisc, t'as pas envie de... Voilà, c'est le moyen le plus absolu de ne jamais retrouver la trace de l'argent. On est dans le point aveugle de la finance internationale. Après, même le meilleur enquêteur de la Terre, le meilleur informaticien, il n'arrivera jamais à retrouver la trace de l'argent. T'as l'argent qui arrive et tu sais pas d'où elle vient. Donc c'est en prévision de futures enquêtes, ou c'est un fusible dans la chaîne des transferts d'argent. À ce moment-là, il y a un endroit où il y a une rupture et on ne retrouvera jamais la trace.
Pour moi, il y a une volonté très précise des institutions de ne pas contrôler Clearstream. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des contrôles.
Les institutions, c'est les institutions financières internationales et les institutions...
Je parle aussi de gouvernement et plus haut. Pour contrôler une firme pareille, il faut quand même qu'on contrôle ça. Et on ne contrôle pas.
Finalement, c'est ce nœud qu'on devrait le plus observer au niveau de la finance internationale.
C'est facile de contrôler, ce serait facile. Hein. Ce serait très facile de contrôler. Hein.
C'est lui qu'on devrait le plus contrôler, le plus observer. Ouais. Et c'est celui qu'on contrôle et qu'on observe le moins.
Le moins, ouais. Et c'est facile de mettre des trucs de contrôle. C'est très facile de le faire.
Et donc ça veut dire que, par exemple, vous connaissez le mouvement ATTAC ou pas ?
Oui.
Et quand ils disent qu'on peut réguler la finance internationale, qu'on pourrait mettre une taxation sur les capitaux, finalement, si on observait ce qui se passe à Clearstream, vu que c'est par là que tout passe, on pourrait le faire par là.
Très facilement. Très, très facilement, encore une fois.
C'est d'autant plus évident qu'il ne faut surtout pas qu'on en commence à en avoir l'idée, alors.
Voilà. C'est parce que tout est informatisé. Il suffit de mettre quelques petits... programme de contrôle là-dedans, qui serait contrôlé par des institutions indépendantes, gouvernementales ou autres, je m'en fous, mais c'est très facile à faire. Et c'est pas voulu. Je peux me l'expliquer comme ça, c'est pas voulu de le faire. Mais le gros problème pour les gouvernements, pour tout le monde, c'est ces sommes énormes. Le marché de la drogue, le marché des armes. Comment faire rentrer cet argent-là à nouveau dans le circuit normal des affaires? C'est ça le gros défi.
Et donc, comment on fait pour faire rentrer cet argent dans les circuits financiers normaux ? L'argent de la drogue, l'argent des armes ?
Avec Clearstream, on utilisait ces chemins-là, il y a moyen de faire.
Ouais. Et quand vous étiez à l'intérieur de Clearstream, vous étiez la seule personne à penser que ça servait à faire du blanchiment, que ça pouvait servir à faire du blanchiment, ou bien c'était un avis qui était partagé par quelques-uns de vos collègues ?
Bah, disons, tout le monde savait. Moi, j'étais l'exécutant, mais... Il y avait en haut de la production, il y avait des gens qui savaient mieux que moi. Hein.
Et les ordres, ils venaient directement de la direction ?
C'est directement d'en haut. Hein. C'est, pour moi, Clearstream est le meilleur moyen de blanchir. Quoi.
Et quand vous dites ça aux banquiers, quand vous dites ça aux magistrats luxembourgeois, quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on vous répond ?
J'ai dit aussi toujours, on est un très petit pays ici au Luxembourg, et ça j'avais dit, c'est dit, à un moment donné, ici, c'est fini. Luxembourg, c'est tabou. Hein. Ça, c'est...
Parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont liés à la banque. Oui. Le pays vit sur la banque. Donc finalement, si on met en cause Clearstream, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied.
Dans les deux pieds. Dans les deux pieds. Ça ne marcherait plus. Hein. Ça...
Voilà quelques éléments sur Clearstream. C'était un reportage de François Ruffin, première diffusion 14 juin 2007. Et puis Antoine Chao, en début d'heure, nous a emmenés au palais de justice, nous faire rencontrer les tricoteuses. Merci à Denis Robert et à Dominique Plion. Je rappelle les ouvrages de Denis Robert, L'affaire des affaires, volume 1, L'argent invisible, ou L'affaire Clearstream racontée en bande dessinée, paru le 23 janvier 2009 aux éditions d'Argo, et puis bientôt le volume 2 de cette affaire des affaires intitulé L'enquête, et qui paraîtra le 6 novembre, vous avez le temps, chez d'Argo toujours. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire des commentaires si vous le souhaitez. Ou bien vous pouvez la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi, commentaires possibles. Et puis je vous rappelle, nous préparons une émission sur France Télécom et les témoignages des collaborateurs de France Télécom nous intéressent beaucoup. Quand je dis collaborateurs, vous voyez bien dans quel sens j'utilise ce mot. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, c'est Coy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto, quant à elle, attend, comme chaque jour, sagement, auprès du répondeur de là-bas si j'y suis, vos messages. Le numéro est le 01 56 40 37 37.